C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Pendant des siècles, nous avons consommé les ressources naturelles sans compter. Nous avons pollué sans réparer et l'heure de l'addition a sonné. Réchauffement climatique, chute de la biodiversité, tout le monde est concerné, même si le niveau de responsabilité est contrasté. Il faut donc inventer, innover, repenser notre rapport à la nature pour garantir un avenir durable et harmonieux à l'ensemble de l'humanité. C'est l'ambition de cette émission, pour preuve sa programmation. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les bains de forêt et leurs bienfaits avec Éric Brisbard. Nous irons en Colombie où l'entreprise Conceptos Plasticos recycle le plastique pour fabriquer des logements. Et un peu plus au sud, en Argentine, où un prêtre jésuite apprend l'agroécologie à des habitants d'un bidonville près de Buenos Aires. Bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Le bonheur ne s'achète pas, il se cultive. L'observation des merveilles autour de nous, même toutes petites, participe à la création du bonheur. Être dans la nature, respirer à plein poumon, nourrit en nous les graines de la sérénité. Ces quelques phrases sont extraites de votre livre, Éric Brisbard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un homme à deux facettes, consultant dans un grand groupe international en semaine et guide forestier le week-end. Vous avez parcouru quelques-unes des plus belles forêts du monde et vous venez de publier un bain de forêt sylvothérapie, le pouvoir et les bienfaits des arbres aux éditions Marabout. Alors à travers ce livre, vous nous faites partager votre passion pour les arbres qui remonte à l'enfance, dès l'âge de 4 ans, écrivez-vous.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, depuis tout petit, hein, j'ai été en contact avec la nature. Donc, je suis né dans les Vosges.
Dans l'est de la France.
Dans l'est de la France, voilà. Donc, les Vosges, où il y a énormément de forêts, forêts de hêtres et de sapins. Et donc, j'ai été baigné depuis mon plus jeune âge dans ces montagnes et ces forêts vosgiennes. Et puis, après, à travers la réalisation d'un herbier, et puis à travers différentes balades, que ce soit dans les Vosges, mais aussi dans les Alpes, hein, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans les Alpes au cours de mes vacances. J'ai été amené donc à passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne.
Ce qui n'est pas rien, hein, parce qu'on a l'impression que c'est facile comme ça, mais c'est un peu comme le diplôme pour être professeur de ski. En France, c'est très compliqué, on vous demande énormément de compétences, donc vous avez fait ça en plus de votre travail. Donc c'était voilà. Un gros investissement.
Tout à fait, donc en parallèle de mon travail, en 2010, j'ai décidé de passer ce diplôme. Effectivement, il y a 15% de réussite à peu près. C'est assez exigeant.
Ils ont dû vous prendre un peu pour un extraterrestre. Vous avez dit, moi je suis consultant, mais je veux quand même être guide de montagne.
Oui, enfin bon, c'est vrai que c'est un milieu où c'est très difficile de faire sa place, hein, parce que surtout quand on vient de la ville, on est déjà un petit peu catalogué. J'ai pas forcément dit que j'étais consultant non plus, pour tout vous dire. Mais voilà, après, j'ai développé. J'avais déjà des compétences, on va dire, sur le terrain, et j'ai essayé de développer toutes mes connaissances à côté, à la fois du milieu montagnard et du milieu de la forêt. Il fallait que je passe ce diplôme-là. C'était une reconnaissance un peu de mes acquis et aussi pour moi la possibilité de créer un véritable équilibre entre ma vie professionnelle de consultant et cet amour pour la nature et ce job passion, quoi, en fait. Hein.
Et alors, vous avez pris 6 mois de congé et là, vous êtes parti vous promener dans certaines des plus belles forêts du monde.
Voilà, tout à fait. Donc, je suis parti effectivement pendant 6 mois dans l'Himalaya, notamment au Népal, hein, où j'ai pu traverser des forêts vraiment magnifiques. Hein. Je pense notamment à la forêt en montant au lac du Gosengunda, au nord de Katmandou, où là on traverse des forêts où il y a des rhododendrons qui sont pas des arbustes comme on peut les voir ici dans nos Alpes françaises, mais qui sont de véritables arbres qui font de 15 à 20 mètres de haut.
Et qui sont fleuris aussi ?
Et qui sont fleuris, qui fleurissent à peu près, qui fleurissent vers le mois de mars-avril, cette saison justement.
Écoutez, on va y aller juste après.
Écoutez, pas de problème, je vous accompagne.
Et vous êtes allé à La Réunion aussi, et là vous avez frissonné.
Voilà, donc je suis allé à l'île de la Réunion. Là, pareil, j'ai fait la traversée de l'île à pied en une dizaine de jours, en toute autonomie. Et ça a été l'occasion de traverser des forêts primaires, là aussi, hein, donc des forêts qui n'ont pas ou très peu été manipulées par la main de l'homme. Il faut savoir que en France, il reste seulement 0,2% de forêts primaires, malheureusement. Donc ce sont des endroits qui sont très fragiles et très sensibles. Qu'il faut protéger. Donc il y a quand même une prise de conscience ces derniers temps, notamment de la part de l'Office national des forêts, qui encadre un peu ces endroits très riches en biodiversité. Donc il y a notamment la création de réserves de biosphère intégrales qui sont présentes maintenant un peu partout sur le territoire.
Et quand on lit votre livre, on comprend l'importance de la protection de ces forêts parce que vous nous expliquez comment elles fonctionnent, comment fonctionnent les arbres. Et alors c'est extrêmement fascinant. Racontez-nous tout d'abord comment est constitué un arbre. Ça peut paraître être une question très simple, mais la réponse est finalement assez complexe.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, il y a une certaine approche personnelle que j'ai. Pour moi, un arbre, c'est comme un être vivant. Enfin, c'est un être vivant, mais c'est un être vivant comme nous, les humains. Donc, on doit déjà avoir un certain respect quand on va à proximité d'un arbre. Un arbre,
Il y a le tronc, les
donc
branches, les
voilà.
feuilles et les racines. Jusque-là, on est d'accord.
Jusque-là, on est d'accord. Donc, un arbre va pouvoir communiquer avec les autres arbres de la forêt à travers notamment ce qu'on appelle les mycorhizes et le mycélium. Donc, ce sont les racines de l'arbre qui vont s'entrelacer avec les racines et le mycélium des champignons pour pouvoir être en relation avec les autres essences de la forêt.
Alors comment ça marche? Ça sert à quoi en fait de communiquer entre arbres?
Donc, de communiquer entre arbres, ça va permettre notamment de pouvoir signaler qu'il y a des dangers, hein. Donc, ça peut être une tempête qui arrive, ça peut être une attaque de champignons, ça peut être des animaux qui vont attaquer l'écorce des arbres. Enfin, ça peut être toute une série de choses. Et puis, donc, il y a une espèce de symbiose entre ces champignons et ces arbres, hein. Donc, l'arbre va nourrir les champignons à travers les glucides qui va générer et les champignons vont apporter les minéraux à l'arbre. Donc il y a un équilibre en fait qui s'est créé, un équilibre qui est fragile parce qu'il peut être déstabilisé, hein. L'arbre peut être attaqué aussi par ces champignons, hein, s'il devient plus faible. Donc il y a à la fois cet équilibre qui doit se créer. Et puis un arbre, c'est aussi un être vivant sur lequel il y a des feuilles donc qui vont pousser et qui vont durant le printemps et l'été générer des phytoncides et des terpènes qui sont en fait un peu comme des huiles essentielles qui sont dispersées à travers ces feuilles et qui font que bah, justement le fait de se balader en forêt, de faire un bain de forêt, va nous permettre de respirer ces phytoncides qui sont émises par les feuilles.
Et la longévité des arbres, parce que certains vivent des centaines d'années,
Tout
c'est
à
le
fait.
résultat d'un combat acharné finalement.
Oui, voilà, hein, donc si on prend l'exemple d'un chêne, il va y avoir seulement un arbre centenaire parmi 100 000 glands qui sont tombés au sol. Donc c'est effectivement un combat pour survivre, hein, un peu comme les humains. Hein, donc on ne décide pas d'où on est né, à l'endroit où on est né. C'est la même chose pour les arbres, hein, il y a une semence qui a été plantée à un endroit. Peut-être c'est le vent qui l'a apporté là, peut-être il est juste tombé de l'arbre de cette manière, et puis donc bah, il va falloir tout faire pour survivre à cet endroit. Et l'arbre, il n'a pas la possibilité de bouger, hein, donc il est planté ici, et donc il doit combattre, hein, la sécheresse, le froid, le gel
C'est la
pour
guerre pour la
survivre.
lumière aussi, l'accès à la
C'est la...
lumière.
Voilà, c'est l'accès pour la lumière, c'est l'accès pour l'accès à l'eau, enfin, tous ces éléments qui vont permettre à l'arbre de pouvoir croître.
Alors maintenant que vous nous avez expliqué tout cela, nous ne voyons plus les arbres de la même manière et nous pouvons donc mieux comprendre les vertus du bain de forêt, un concept qui est né au Japon. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
Les bains de forêt ou Shinrin-yoku, j'espère que je prononce bien en japonais, sont apparus dans les années 80. L'activité consiste à gérer son stress au contact des arbres et elle est reconnue par le ministère de la Santé, qu'il a même intégrée dans sa politique de médecine préventive.
C'est ça, cette pratique se serait développée d'abord dans les Alpes japonaises, la région de Nagano, peut-être parce qu'elle est proche de Tokyo, à moins de 2 heures de train de la capitale. Alors l'Agence japonaise des forêts voulait d'abord inciter les Tokyoïtes surmenés à sortir de leur mégalopole pour se rendre en forêt, passer une journée en immersion sous les frondaisons. Cette thérapie par les arbres ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus d'un millénaire, des moines bouddhistes zen religion de la contemplation, de la méditation, de l'ascèse et d'une nourriture uniquement végétale, aurait déjà reconnu les bienfaits de la nature sur l'organisme. Il ne faut pas oublier non plus que la forêt est perpétuellement présente au Japon. Elle couvre 67% de la superficie.
Plusieurs études ont été menées par des médecins et des chercheurs japonais pour démontrer les effets physiologiques positifs de ces bains de forêt. Alors, qu'ont-ils observé ?
Eh bien, dès 1995, deux chercheurs, Miyazaki et Motohashi, notent une diminution sensible de la tension artérielle chez des personnes qui passent 40 minutes en forêt deux fois par jour. Celles souffrant de dépression, d'anxiété, de confusion se portent mieux. Leur taux de cortisol, responsable du stress, fléchit. Une autre étude réalisée entre 2004 et 2012 sur un groupe de 250 personnes ayant passé 30 minutes en forêt par rapport à un autre groupe ayant séjourné dans une zone neutre, eh bien, selon cette étude, et le professeur Quigley de la Nippon Medical School de Tokyo, souvent cité, être en forêt permet de faire baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, la production d'hormones. Une trentaine de minutes en forêt améliore le système immunitaire par l'inspiration des phytoncides, des molécules sécrétées par les arbres pour se défendre contre les bactéries.
Les bains de forêt relèveraient donc, si on vous écoute bien, de la solution miracle contre le stress au Japon. Qui sont les Japonais les plus attirés par cette pratique ?
Oh, les Japonais, vous savez, ils ne croient pas aux miracles, mais vous trouvez beaucoup de salariés d'entreprises qui accumulent un trop grand nombre d'heures supplémentaires et qui risquent de mourir d'épuisement au travail s'ils ne gèrent pas mieux leur stress. Leurs entreprises, d'ailleurs, leur offrent l'opportunité de se rendre en forêt. Vous avez aussi des étudiants sous pression des examens. Dans la préfecture de Nagano, des guides spécialisés dans les bains de forêt en petits groupes se livrent à des mesures de tension des participants avant et après la marche, en fin de journée. Ces guides prélèvent aussi de la salive pour détecter la présence de cortisol, responsable du stress. Ce sont des marches lentes qui prennent souvent la forme d'une méditation immobile.
Alors, le Japon compte aujourd'hui une soixantaine de forêts thérapeutiques. Il en a même fait un recours essentiel de sa médecine préventive.
Oui, le bain de forêt est même proposé aux enfants autistes et aux patients qui ont subi des chimiothérapies. Des femmes qui vivent mal leur ménopause sont aussi attirées par le vert sombre et bleuté des forêts profondes ou le vert tendre des bambous vaporeux. Dans les mythes fondateurs du Japon, l'homme et la nature sont placés dans une communion inséparable. La nature inspire toujours une grande dévotion, maintenant peut-être pour ses vertus thérapeutiques.
Et avez-vous déjà essayé, Frédéric Charles ?
Non, je préfère la ville à la forêt pour me ressourcer, mais rien ne m'empêchera peut-être un jour de changer d'avis.
Voilà, en tout cas, vous l'avez découvert à travers ce sujet. Merci beaucoup, Frédéric Charles.
Oui, merci.
Comment pratiquer un bain de forêt ? Nous vous dirons tout juste après une petite pause en compagnie de Dominique A.
Oublie la ville, oublie la vitesse, oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir, écoute la rivière se taire, personne pour vous regarder. Contre un arbre, contre un arbre, les jours à cran, les jours qui font écran, se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous vous porter. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée. Les feuilles seront vos alliés, les corps. Un mur impénétrable, vous resterez caché contre un arbre. Contre un arbre. Seulement des taches de couleurs mouvantes au bord de la rivière qui passera sans mot dire sur vos petites affaires, sur ce que vous aurez à faire.
Vécu au Canada toute mon enfance et donc je me suis beaucoup promené dans les forêts, c'est toujours été mon grand plaisir, donc j'ai développé beaucoup de plaisir à marcher dans la forêt, ce qui j'ai appris en japonais a un nom, et ce nom, je ne me souviens pas du nom en japonais mais je me souviens de sa traduction, ça s'appelle prendre des bains d'arbres. Ça veut dire aller s'immerger dans la forêt, seul, avec seulement des arbres, et sentir leur présence. On la sent, on ne sait pas très bien comment, mais on la sent. Ça se sent, on sent qu'il y a un rapport avec les arbres. Les arbres, ils sont présents, vous pouvez continuer à rêver, à réfléchir, vous sentez qu'ils vous accompagnent. C'est comme prendre contact avec une autre espèce de vie, totalement différent de la nôtre, mais c'est quelque chose qui quand même nous parle, nous dit quelque chose. Vous voyez, il y a cette impression que vous êtes dans quelque chose qui vous déborde, qui n'est pas à votre échelle, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vieux, c'est une autre réalité à laquelle vous avez accès. On peut dire que c'est un lieu où on peut se recueillir, où on n'est pas dans la vitesse, dans la frivolité, dans l'excitation, on est de quelque chose qui est tellement calme et paisible, que c'est contagieux. Ça vous contamine, vous entrez vous-même dans cette ambiance. Et le temps ne passe pas, vous pouvez y rester des heures de temps. Bon, j'en prends aussi souvent que je peux. Chaque fois que j'ai l'occasion, ça me ressource de partir seul. C'est important d'être seul. Parce que vous n'êtes pas seul, vous conversez. Et si vous conversez, vous n'êtes plus perméable autant à tout ce qu'il y a autour de vous.
Vous venez d'entendre l'astrophysicien Hubert Reeves qui prend donc des bains de forêt. Il était interrogé par nos collègues de l'émission autour de la question. Une pratique que vous connaissez bien, Éric Brisbard, puisque un bain de forêt est le titre de votre livre aux éditions Marabout. Alors comment réagissez-vous à ces propos d'Hubert Reeves ?
Ben, je pense qu'ils sont tout à fait justes, ces propos, et je me reconnais à travers le discours d'Hubert Reeves, puisque moi-même, donc, j'ai commencé à la base à pratiquer ces bains de forêt pour retrouver en fait un équilibre et diminuer le stress que je pouvais accumuler la semaine lors de mes activités professionnelles. Et pour moi, effectivement, le fait d'aller en forêt, et c'est un petit peu aussi les retours que j'ai de mes clients, hein, permet de, en un jour et demi, hein, puisque souvent je fais des cures, des bains de forêt de un jour et demi, on a l'impression d'avoir des bénéfices d'une semaine de congé. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que, et là justement, puisqu'on entendait les études des Japonais, il s'avère que quand on passe à peu près 2 jours ou à 3 jours en forêt, on a donc le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va diminuer, et on peut retrouver des bénéfices jusqu'à 30 jours après ce bain de forêt.
Le fait d'y dormir a un impact ?
Le fait d'y dormir aussi a un impact. C'est surtout aussi le fait de se déconnecter, hein, comme disait Hubert Reeves, le fait de se déconnecter de notre quotidien, de se déconnecter de la vitesse, se déconnecter des écrans, de son téléphone portable, parce que le téléphone portable est éteint lors des bains de forêt. Ça permet de à la fois de se reconnecter à la nature et à l'environnement, mais ça permet aussi de se recentrer sur soi, au plus profond de soi, parce que quand on est en forêt, qu'on parle pas, qu'on est au contact avec la nature, quand on n'a pas l'habitude, on a plein de pensées qui viennent comme ça. Et donc, le but, c'est d'essayer de rentrer un peu en pleine conscience et de se sentir bien et de profiter des éléments qui nous entourent à travers la mise en éveil, l'éveil des sens, pardon.
Alors, l'éveil des sens, c'est-à-dire que tout entre en ligne de compte. Voilà. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue.
C'est ça, tout entre en ligne de compte. Et dans les séjours que je crée, j'essaye de faire des circuits qui permettent de mettre en éveil les sens. Hein. Donc ça va vraiment de l'aspect visuel jusqu'au toucher, donc le contact soit pieds nus dans les feuilles avec les feuilles mortes au sol, le toucher aussi des arbres, goûter les feuilles de hêtre par exemple, ou les épines de sapin. Et puis ça peut être aussi goûter dans un de mes parcours, j'ai une source en fait qui coule sous un hêtre, donc c'est-à-dire que la source n'a pas coulé en amont, elle va juste jaillir sous les racines du hêtre, et donc là on peut en plus goûter cette eau, puisqu'elle est propre à la consommation. Voilà, on a vraiment une mise en éveil des sens complète.
Et ça marche, puisque depuis 2 ans, vous me disiez, il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire des bains de forêt avec vous.
Oui, voilà, il y a de plus en plus de personnes, et surtout les gens me disent qu'ils se sentent bien après ces 2 jours, qu'ils sont complètement déconnectés. Certains me disent aussi que leur sommeil est meilleur après. Donc oui, c'est positif. Et j'ai de plus en plus d'ailleurs d'entreprises dont les patrons envoient leurs salariés faire des bains de forêt pour anticiper des problèmes de stress, justement.
Merci beaucoup, merci Éric Brisbard d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Un bain de forêt, Sylvothérapie, le pouvoir et les bienfaits des arbres. C'est publié aux éditions Marabout.
Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando canciones sin melodía.
Vous écoutez C'est pas du vent, l'émission environnement de RFI, et vous avez bien raison. Savez-vous par exemple à quel point le plastique est un polluant majeur? Il envahit les océans, les estomacs des êtres vivants et même nos assiettes. Composé d'un mélange d'hydrocarbures comme le pétrole et de produits chimiques, il est très résistant puisque certains objets peuvent errer dans l'océan pendant 1000 ans. Depuis son invention dans les années 50, nous en avons produit 8 milliards de tonnes et la plupart n'a pas été recyclée. Ce plastique se trouve donc encore aujourd'hui quelque part sur Terre ou dans l'océan, sous sa forme originelle ou transformée en particules. Toutes les initiatives pour empêcher cette matière polluante de circuler sont donc les bienvenues. En Colombie, par exemple, où seuls 18% de l'ensemble des déchets sont recyclés chaque année. Le plastique est un véritable fléau. Autre problème, environ un tiers des familles n'ont pas de logement ou sont mal logées. Un problème lié notamment au conflit armé qui a secoué le pays durant plus d'un demi-siècle et qui a contraint de nombreux habitants à quitter leur maison. Afin de pallier à ces deux problèmes, une entreprise locale s'est lancée un défi en 2014, recycler le plastique pour fabriquer des logements. Cette entreprise s'appelle Conceptos Plasticos. Chloé Lauvernier est allée visiter leur usine et deux de leurs chantiers.
Solito te apagarás.
L'usine de Conceptos Plasticos se trouve dans une zone industrielle poussiéreuse, à Mosquera, une localité à 25 km à l'ouest de Bogota. À l'extérieur de l'usine, des dizaines de briques en plastique de couleur grise sont empilées. C'est là que nous retrouvons Cristina Gámez, l'une des cofondatrices de Conceptos Plasticos.
Au début, en 2010, on recyclait simplement le plastique utilisé dans l'industrie du plastique. Puis on a eu l'idée de construire des logements à partir de plastique recyclé pour aider à la fois l'environnement et les communautés vulnérables.
Vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect environnemental ?
Une grande partie du plastique est déjà recyclé, comme les bouteilles de soda, mais certains plastiques ne le sont jamais. Par exemple, dans un paquet de chips, il y a trois types de plastique que l'on ne peut pas séparer. Du coup, une grande partie de ce plastique finit à la poubelle et ensuite dans les océans. On s'est donc focalisé sur cela en les recyclant pour éviter qu'ils ne polluent l'environnement.
Vous pouvez nous expliquer la dimension sociale de votre projet ?
Il y a deux aspects. Tout d'abord, l'objectif est de travailler avec les recycleurs de base. Ce sont des gens qui ramassent les poubelles dans la rue et qui recyclent ce qu'ils trouvent. On travaille avec eux en leur rachetant le plastique qu'ils ne pouvaient pas revendre auparavant, ce qui leur permet de gagner un peu plus d'argent. Par ailleurs, en Colombie, il y a beaucoup de personnes déplacées en raison de la guerre et des catastrophes naturelles. Ces personnes vivent souvent en périphérie des villes, dans de mauvaises conditions. Donc, l'idée est de travailler dans ces zones-là pour offrir un logement digne à toutes ces personnes.
Environ 25 personnes travaillent à l'usine de Conceptos Plasticos. C'est là qu'arrive le plastique récupéré par les recycleurs de base et du plastique ayant été utilisé dans l'industrie. Au total, 120 tonnes de plastique sont recyclées chaque mois sur place. Cristina Gámez nous emmène faire un tour à l'intérieur. Des poutres, des colonnes et des briques en plastique de différentes tailles se trouvent à l'intérieur, ainsi que des piles d'emballage en plastique de plusieurs mètres de haut. Des ouvriers les trient, tandis que d'autres s'activent autour d'imposantes machines.
Quand le plastique arrive, on le broie dans une machine ou alors on le compacte, s'il s'agit de paquets de chips par exemple. Puis on mélange les différents types de plastique dans une autre machine où on ajoute également des produits chimiques pour rendre le matériau résistant aux flammes et aux rayons UV notamment. Après avoir tout mélangé, on fait fondre le tout. Puis on démoule le produit final.
Entre 2014 et 2016, Conceptos Plasticos a construit 2000 mètres carrés de logements en Colombie. Trois refuges ont notamment été construits pour des personnes déplacées à Guapi, dans le Cauca, une zone bombardée par l'armée en mai 2015. En 2017, l'entreprise a concentré ses efforts sur Cartagène, une ville située sur la côte caribéenne, très touristique en raison de son centre historique. Mais de nombreux quartiers de la ville sont également très pauvres, c'est le cas du quartier Bicentenario, où Conceptos Plasticos a commencé à construire 10 maisons en juillet dernier. Nous sommes allés sur place au début des travaux.
¿Cuál es Pradera?
Pradera, por aquí es todo.
Pero esta ciudad es ciudad bicentenario.
¿De plástico?
Sí, de plástico. Yo con las nalgas no veo.
Après 40 minutes de taxi, nous arrivons au chantier. Une vingtaine de personnes s'activent autour de quelques murs en plastique déjà montés. C'est là que nous rencontrons Oscar Mendez, autre cofondateur de Conceptos Plasticos.
Ça fait un jour et demi qu'on a commencé à construire les murs, mais on a déjà assez avancé. En général, il faut 5 jours pour construire une maison, mais à Carthagène, on travaille plus lentement, car il fait vraiment très très chaud. Il y a 2 personnes de Conceptos Plasticos, un architecte et un maître d'œuvre, qui supervisent le travail et qui expliquent à des bénévoles comment faire. Ils les ont formés ce matin. En fait, c'est tellement simple qu'on peut se permettre d'accueillir et de former de nouveaux bénévoles chaque jour. Parmi les bénévoles, il y a 3 femmes. Pour elles aussi, c'est très simple, car ce n'est pas un travail très physique. Donc tout le monde peut participer au chantier sans problème.
Pedro Miguel Sepulveda Maza est l'un des bénévoles présents sur le chantier. Il travaille dans une entreprise liée à l'industrie plastique qui sponsorise les travaux.
Quand on est arrivé ici, on savait qu'on allait aider à construire des maisons, mais on ne savait pas du tout comment. On a donc reçu quelques instructions et au bout de 20 minutes, on savait déjà à peu près comment faire. J'ai réussi à construire 1,5 mur. En fait, il y a quelques colonnes en métal, et il faut placer les briques dans l'espace qui se trouve entre ces colonnes. Les briques se superposent les unes sur les autres. On n'utilise ni ciment ni sable. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de connaissances. Il faut juste une bonne volonté.
Faciles et rapides à monter, mais aussi à démonter, ces maisons en plastique présentent plusieurs avantages sur le plan écologique, comme l'explique Oscar Mendes.
Déjà, ce sont des maisons qui durent, puisque le plastique a une durée de vie très longue. D'habitude, c'est un problème, mais ce problème devient un avantage dans la construction. C'est notamment pour ça que nos maisons n'ont besoin d'aucun entretien. Par ailleurs, l'industrie liée à la construction est l'une des plus polluantes au monde. Donc ce qu'on fait est beaucoup moins polluant puisqu'on réutilise le plastique déjà sur le marché, sans compter qu'on n'utilise pas du tout de ciment. Donc on produit moins de CO2. De plus, pendant les travaux, on utilise de l'eau, mais en circuit fermé. Donc il n'y a aucune perte. Et on utilise seulement 6 mètres cubes.
Les maisons construites dans le quartier Bicentenario sont prévues pour 10 familles. Pedro Miguel Sepulveda Massa connaît l'une des bénéficiaires.
Elle s'appelle Cristina. Actuellement, elle travaille pour un sous-traitant qui gère la cafétéria de mon entreprise. Et elle vit avec ses parents dans un logement qu'il loue. Donc quand tout sera fini, elle pourra enfin être un peu plus indépendante avec son mari et leurs 2 enfants.
À Carthagène, d'autres enfants font partie des bénéficiaires des projets de Conceptos Plasticos, puisque l'entreprise a également construit 2 salles de classe dans une école publique au cours de l'été. Cette école met l'accent sur la protection de l'environnement, d'où son nom, Institution éducative environnementale. Elle se trouve à San José de los Campanos, un autre quartier défavorisé de Carthagène. Maria Auxiliadora Banda de Del Valle est la directrice de cette école, où sont scolarisés 3000 jeunes environ.
On est en train de construire 2 salles de classe écologique pour accueillir près de 700 élèves. Jusqu'à présent, ils suivaient les cours dans un autre bâtiment, à l'extérieur de l'école, car il n'y avait plus assez de place ici. Comme notre école a une philosophie environnementale, ce projet est un bon exemple de ce qu'on peut réaliser grâce au recyclage, en pensant à l'environnement. Si vous voulez, on peut aller voir les travaux.
Après avoir traversé la cour de l'école, nous arrivons au chantier. Quelques murs sont déjà montés et 4 ouvriers s'activent, en dépit d'une chaleur écrasante.
Hier, il y avait seulement les colonnes. Et aujourd'hui, les salles de classe sont presque terminées. Quand je suis arrivée ce matin, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est rapide! C'est magique !» Juste à côté, il y a aussi des salles toutes neuves, mais il a fallu presque 2 ans pour les construire. Donc là, on gagne du temps. Et on économise aussi de l'argent, puisque ce projet coûte 2 fois moins cher que si on avait utilisé des briques classiques et du ciment.
Plusieurs dizaines d'élèves arrivent ensuite sur le chantier, l'occasion pour la directrice de leur expliquer l'intérêt du projet de Conceptos Plasticos, à la fois pour eux et pour l'environnement. Xavier Zuniga, 16 ans, est l'un des élèves de l'établissement.
Ce projet me semble très bien et surtout innovant. Le plastique est l'un des matériaux qui pollue le plus l'environnement, mais ici, il est utilisé pour protéger l'environnement. Beaucoup d'élèves s'intéressent aux technologies, donc avec ce projet, ils peuvent approfondir leurs connaissances. Ça devrait leur permettre d'avoir des idées innovantes à leur tour également.
Ces salles de classe en plastique recyclé donnent aussi des idées à certains parents d'élèves, à l'image de Marta Marine Ahumada.
Ma maison s'est fissurée car le terrain s'est affaissé. Et comme je n'ai pas les moyens de la réparer, je suis désormais à la rue. Du coup, quand je vois ces salles de classe, je me dis que je vais me construire une maison similaire, car c'est spectaculaire.
Les deux salles de classe ont été inaugurées en septembre. Quant au chantier du quartier Bicentenario, il a été interrompu durant plusieurs semaines pour des raisons financières avant de reprendre. Désormais, il manque seulement les fenêtres et les portes des maisons.
L'agroécologie, c'est une pratique agricole qui s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en diminuant les pressions sur l'environnement et en préservant les ressources naturelles. Les résultats reconnus dans le monde entier sont une meilleure rentabilité des parcelles à un coût avantageux puisqu'il n'y a pas de produits phytosanitaires. Dans un pays où 60% des surfaces agricoles cultivables sont occupées par du maïs transgénique, promouvoir l'agroécologie semble dérisoire. Mais cela ne décourage pas les chercheurs de l'INTA, l'Institut de technologie agricole argentin, comme le prouve ce reportage de Pauline Bandelier dans la banlieue de Buenos Aires.
Le 16 et 17 novembre 2017, la municipalité de San Martín, dans la banlieue de Buenos Aires, et l'Institut national de technologie agricole argentine, l'INTA, organisent un marché de petits producteurs. L'objectif ? Faire découvrir aux habitants le programme Pro Huerta ou Pro Potager. Alessandra Lara est ingénieure agronome à l'INTA. Elle travaille sur ce projet dans plusieurs municipalités, dont celle de San Martín.
Pro Huerta est un programme national du ministère du Développement Social, du ministère
de l'agro-industrie et de l'INTA. Il promeut l'installation de jardins agroécologiques sur le territoire au niveau familial, dans les écoles ou au niveau institutionnel. Nous encourageons les cultures agroécologiques sans produits toxiques avec l'utilisation de différentes techniques pour favoriser la productivité. Nous offrons également des formations ouvertes aux communautés locales.
Au stand de l'INTA, les habitants du quartier peuvent venir chercher des petits sacs de graines avec des instructions pour les planter.
Les kits que nous distribuons contiennent 14 variétés de légumes. Ce kit est pour l'été et nous en avons d'autres pour l'hiver et l'automne.
Le programme Pro Huerta compte aujourd'hui entre 400 000 et 600 000 jardins potagers au niveau national pour environ 3 millions de bénéficiaires. Roberto Cittadini, sociologue et chercheur à l'INTA, a coordonné le projet de 2007 à 2013.
Le programme Pro Huerta est une expérience de grande ampleur pour la promotion des jardins potagers familiaux et communautaires. Il est né dans les années 90 en réponse aux crises périodiques de l'Argentine, marquées par l'inflation, le chômage et la pauvreté. Initié dans les provinces, il a très bien réussi et s'est développé dans tout le pays. Il se met en place à partir d'un réseau de techniciens de l'INTA en collaboration avec la population et est porté par des promoteurs, c'est-à-dire des bénévoles, qui s'occupent de mettre en place les cours, de la distribution des graines et de la formation des familles qui cultivent ces potagers. L'objectif est d'assurer l'alimentation des familles en légumes et en fruits. Il peut aussi offrir des débouchés commerciaux, même si ce n'est pas son but premier.
L'un des projets Pro Huerta dans les districts de Saint-Martin se trouve à José León Suárez, l'un des quartiers les plus défavorisés de la périphérie de Buenos Aires. Il est géré par le père franciscain Sébastien Montero et s'inscrit à l'intérieur d'un centre éducatif qui comprend un collège, une école professionnelle, une église et un potager agroécologique sous serre. À l'entrée du centre éducatif, je suis accueillie par Sébastien Montero qui m'emmène visiter le potager.
Je n'ai pas coupé les herbes parce qu'il a beaucoup plu le dimanche. Ça, c'est la production printemps-été. Nous avons déjà récolté la production d'automne et hiver. C'est un cours qui compte 20 personnes du quartier. La grande majorité n'a pas fini l'école secondaire. Alors les gens viennent ici, se forment, ce qui leur permet d'occuper leur temps, mais aussi de trouver du travail comme jardinier dans les familles plus aisées autour de Sainte-Martine ou de vendre des pousses bio sur les marchés.
Des formations que le prêtre franciscain, installé depuis 2 ans dans le quartier, dispense en dépit d'une situation sécuritaire très dégradée.
Ici, c'est l'armoire où nous gardons sous clé tous les outils que nous utilisons, parce que sinon, les gens nous volent. Ils escaladent les murs et nous volent tout. Pas pour s'en servir, ils les volent pour les vendre et acheter de la drogue. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de drogue ici.
L'un des fléaux qui ravage le quartier, le Paco. Apparu en Argentine avec la crise de 2001, cette drogue du pauvre se vend 50 centimes d'euros la dose. Mélange de résidus de cocaïne et de produits toxiques comme le kérosène ou la morora, il crée en quelques mois des dommages irréversibles. Nous partons ensuite en voiture visiter un potager dans un centre de santé en plein cœur du bidonville via la Carcova. Ici, pas de système d'évacuation, la route de terre est envahie par l'eau putride et verdâtre qui s'écoule des maisons. Située le long du fleuve Rio Reconquista, en zone inondée, via la Carcova s'est construite sur une zone d'enfouissement des déchets.
En face de nous se trouve le CMC, qui est la décharge dans laquelle arrivent les poubelles des différentes parties de Buenos Aires. En cas d'inondation du fleuve, toute la terre est polluée. C'est pourquoi nous cultivons notre potager dans des boîtes en hauteur.
En plus des soins de santé de base, le centre propose des activités pour les habitants du quartier, dont des formations en jardinage agroécologique. Elles sont dispensées par Inès Rivero, qui enseigne également au centre éducatif géré par le frère Sébastien Montero.
Gardez les coquilles des œufs, vous pourrez les disperser autour de vos plantes. Cela freinera les escargots car les coquilles les piquent. Vous apportez en plus du calcium à la plante, car les coquilles finissent par se dissoudre dans la terre. Vous pouvez également utiliser des cartons ondulés. Lorsqu'il fait froid, les vers de terre vont s'y loger pour se réchauffer. Ils se font une petite maison.
Parmi les habitants qui assistent au cours, Ramona Valeria Quintana, résidente du quartier depuis 50 ans. Peuplé à l'origine par des personnes venues de l'intérieur de l'Argentine, le bidonville s'est agrandi depuis les années 90 avec l'arrivée de migrants venus des pays limitrophes.
J'habite ici depuis que j'ai 5 ans. C'était un marécage, il n'y avait aucun confort, pas de chemin, rien, sauf le train. Depuis, le quartier s'est amélioré. Je vis mieux, j'ai plus de confort. Mais lorsque je suis venue, il n'y avait rien. Nous avons commencé de zéro. Au fil des années, une ferme laitière s'est installée. Nous achetions le lait là-bas. Les gens essaient de construire comme ils peuvent. Ils sont venus vivre là car ils n'avaient pas d'autre option. Et maintenant, ils essaient d'améliorer leurs conditions de vie.
S'il touche un grand nombre de personnes, le programme Pro Huerta peut-il pour autant avoir un impact sur le modèle agricole argentin ? Roberto Cittadini pense en tout cas qu'il contribue à faire avancer le débat.
C'est une dynamique très importante pour l'agriculture. On a une agriculture, dans la région pampéenne principalement, qui est surtout de l'agro-business tourné vers l'exportation. Un modèle très concentré avec la culture du soja transgénique notamment. Ce modèle est contesté, même par les organisations de recherche. À l'autre extrême, le programme Pro Huerta, Pro Potager, même s'il est tout petit, a permis de développer des techniques alternatives et agroécologiques. Il existe aujourd'hui des formations pour les professionnels et pour les gens qui pratiquent cette petite agriculture. Si l'agriculture industrielle reste dominante, il y a, même à l'INTA, un réseau sur l'agroécologie qui développe des techniques alternatives et qui participe au débat sur le modèle agricole du futur.
Autre raison d'espérer, selon le chercheur, l'adoption par certaines exploitations plus importantes des principes agroécologiques.
Nous avons visité des expériences pionnières faites par de grosses exploitations qui ont basculé dans l'agroécologie. Il existe des initiatives depuis 15-20 ans en agroécologie, des exploitations mixtes qui mélangent agriculture et élevage. Les indicateurs de productivité et surtout de meilleures relations avec l'environnement montrent leur réussite. C'est un réseau qui est appuyé par l'INTA et qui est très prometteur.
Prochaine étape pour Roberto Cittadini qui revient d'un séjour de 3 ans en France dans le cadre d'un échange avec l'INRA, la mise en place en 2018 d'un MOOC d'agroécologie en espagnol, fruit d'un partenariat entre Supagro Montpellier et l'INTA. Pour les habitants des bidonvilles comme Villa La Carcova, la route reste longue pour sortir d'une vie quotidienne marquée par la pollution, le chômage et la violence. Impulsée par des personnes engagées sur le terrain et soutenues par l'État, l'agroécologie peut leur permettre de construire pas à pas une réalité plus belle.
Depuis 2013, le programme argentin Pro Huerta a été importé en Haïti. 140 000 personnes ont été formées à l'agroécologie dans une dizaine de départements. Peut-être peut-il aussi se développer dans votre pays. C'était un reportage de Pauline Bandelier.
Gaucho colorado murió en aquella ocasión. Cuánto rancho abandonado, Yuyu lo recubrió. Cuánto pueblo devastado, la guerra lo destruyó. Cuánto esfuerzo fracasado, la idea, la federación. Cuánta sangre derramada por esa causa empecinada. Cuánta pampa ensangrentada. Por idea contraria.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.